Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur PFM 99.9. On se retrouve pour votre rendez-vous incontournable de l'actualité, bien sûr. Comme je vous l'avais exposé la semaine dernière, et puis comme Jeanne l'a fait la semaine dernière également, nous poursuivons notre programmation spéciale vacances. Pour rappel, cet été, on vous fait voyager sans vous mouvoir. Alors, je suis heureux de vous présenter les États-Unis. Donc, on va en parler pendant une demi-heure sur PFM 99.9. Et c'est parti. Franchir l'Atlantique pour découvrir les États-Unis est une expérience inoubliable. Métissé mais profondément uni, les 50 États valent bien mieux que les clichés des prophètes de l'anti-américanisme. Terre d'immigration depuis bien longtemps, les États-Unis sont un pays monde, une planète à part entière. Aux États-Unis, le sentiment est très fort d'appartenir à une nation d'exception, au destin messianique, à une terre promise. Quoi de commun entre le désert de l'Arizona et les sommets enneigés du Vermont? Entre les Mormons de l'Utah et les gars de Key West? Entre les Latinos de Los Angeles et les Wasps de Boston? De Boston à Washington en passant par New York et Philadelphie, le nord-est des États-Unis est jalonné de grandes villes, d'art et d'histoire façonnées par les vagues d'immigration, l'industrialisation passée et le rêve américain. L'Ouest américain abrite sans doute les plus impressionnantes formations géologiques de notre planète, modélisées par le climat et le temps. Elles se découvrent selon un parcours à réaliser en boucle. On redécouvre le pouvoir du silence, la majesté d'une falaise, la magie de la lumière, le souffle du vent éternel, le rugissement d'un torrent, puis l'apaisant glouglou d'une rivière, la Californie, de la libre San Francisco au clinquant de l'IA, donc Los Angeles, en passant par la haute technologie de la Silicon Valley, incarne le mythe américain par l'excellence. La Floride, couverte de marécages infestés de moustiques, de serpents et d'alligators, est devenue l'Amérique des extrêmes et de la démesure. Elle est une transition entre l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. La Louisiane réveille les fantasmes des premiers explorateurs et évoque la parenté entre les Français de France et ces Acadiens devenus Cadiens puis Cajuns. Alors, on va parler de l'actualité, d'actualité du moment, forcément. Donc, vous savez que se tient le G20 en Chine. Et on a parlé un petit peu récemment, dans une dernière émission, justement, de cette confrontation entre l'Amérique et la Chine, notamment d'un point de vue commercial. Alors que le G20 au Japon vient de débuter, la rencontre, donc demain, nous enregistrons, nous sommes le 28, entre Donald Trump et Xi Jinping, accapare l'attention, en attente une possible trêve dans la guerre commerciale que se livrent les deux pays depuis un an. Si la croissance mondiale trouve un répit, le multilatéralisme gagnera-t-il? Grande question. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver des solutions? Ils vont réussir à trouver des solutions, un accord entre la Chine et les États-Unis?
Alors là, est-ce qu'on peut dire que... En fait, on ne peut pas savoir maintenant, parce que ça vient... Alors, déjà, ça vient de commencer, mais il y a tellement de sujets divergents, j'ai l'impression, entre la façon de gouverner chinoise et américaine, que oui, peut-être qu'un jour, il y aura quelque chose en commun, quelque chose qui va permettre un accord. Mais je pense que ça sera forcément des compromis. Il y aura forcément un moment où voilà, ils vont devoir dire bon bah.
De toute façon, un accord, c'est un compromis. Hein.
Oui, mais en fait, j'ai l'impression que c'est tellement un peu les opposés dans leur façon de réfléchir, même si ça reste quelque chose de. Comment dire, que ce soit du côté américain ou du côté chinois. J'ai l'impression que c'est deux façons de gouverner assez strictes, on va dire, assez droites. Mais c'est peut-être ça le problème, c'est que du coup, opposer deux façons de gouverner telles que l'Amérique et la Chine. Ça va du coup provoquer, quand ils seront pas d'accord, ils vont devoir faire des compromis sur quelque chose qui ne sont pas d'accord, alors que tous les deux veulent forcément, ce qui est logique dans ce genre d'accord, mais obtenir ce qu'ils veulent dans leur façon de penser, leur façon de vouloir faire. Et du coup, voilà, ça, je pense que ça va prendre du temps.
Quelqu'un veut réagir par rapport à ça, François?
Effectivement, il y a cette situation-là à prendre en compte, leur ligne droite par rapport à leur gouvernement et leur mandat. Mais il y a aussi à prendre en compte le contexte actuel qui est que Donald Trump a effectivement s'est présenté à la candidature pour les prochaines présidentielles. Et donc, il veut gagner, je pense, ses électeurs, encore plus d'électeurs. Et on sait tous que ses électeurs sont plutôt conservateurs. Et je ne pense pas, donc je pense qu'il va justement suivre ce fil rouge qui s'était tracé, de dire... américaine, make great again, je sais plus ce qu'il avait dit. Oui.
Great again, oui.
Great again, pas de make. Et donc je pense effectivement qu'il va suivre ce fil rouge, encore plus en période présidentielle. Je ne sais pas s'il va pouvoir du coup s'ouvrir au monde et s'ouvrir à la Chine en signant des accords.
Je pense qu'après, s'opposer à la Chine, ça lui rapporte des voix aussi. Hein. Donc forcément, il va se dire... C'est toujours bien. Dans l'esprit de les États-Unis, c'est le meilleur. Pas de compromis, oui, on est les plus forts. Donc
de toute façon, les Américains veulent retrouver ce côté où les Américains...
D'après-guerre,
de dominer du monde. De sauveur d'une guerre mondiale, etc. Et du coup, qui se démarque du lot.
Carrément. Donc, je pense qu'il n'a pas intérêt à faire des compromis avec les Chinois, quoi, parce que ça n'a pas l'idée.
Oui, c'est ça. Mais ils ont aussi leur fierté quand même.
Ça aidera les Américains, mais lui, ça l'aidera pas pour se faire réélire.
C'est à voir au final, peut-être que. Comment dire. Que c'est pas du tout ce qu'on pense en fait. Et que
puis,
je n'ai aucune idée en fait. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. Je pense que ça peut donner tout et n'importe quoi.
Comment vous percevez ces deux dirigeants qui ont un certain leadership, charisme?
Alors.
Ils sont assez dictatoriales hein, quand même. Enfin, les deux.
Hein. Je pense que oui, c'est la première image qu'on a assez facilement. Pour moi, d'abord Trump, pour moi c'est quelqu'un, quelqu'un qui est arrivé, qui est devenu président, alors qu'à la base c'était quand même quelqu'un de la télé-réalité, on va le rappeler, qui n'est pas du tout un homme politique à la base.
C'est un homme d'affaires à la base. Hein.
Oui, enfin voilà, quelqu'un qui a des sous et qui est devenu président. Et à mes yeux, c'est quelqu'un qui a beaucoup de monde derrière lui. Qui sait ce qu'il veut, c'est ce qu'il fait, parce que
sait ce qu'il fait.
Pour moi, dans sa tête, il sait ce qu'il fait.
Moi, je pense qu'il est impulsif quand même. Hein.
Bien sûr qu'il sait ce qu'il fait. Je pense que c'est un homme d'affaires. Par contre, étant donné que c'est un homme d'affaires, il s'occupe que de ses affaires, pas de l'affaire du pays.
Dans sa tête,
pense.
Il se dit, c'est ça qu'il faut faire.
Voilà.
Par contre,
c'est ça qu'il va faire pour moi.
Voilà.
Après, le pays.
Le réchauffement climatique, tout ça, c'est autre chose, quoi.
Tu vois ? Donc moi, je pense effectivement, justement, qu'il va suivre ce fil rouge qui s'était tracé juste en début de mandat, et il va d'autant plus le respecter pour gagner et puis pour conforter la situation des électeurs qui vont encore voter pour lui.
De toute façon, pour gagner, il y a intérêt à suivre ce fil rouge, hein, sinon il ne gagnera pas. S'il devient pas plus démocrate, mais s'il devient moins extrémiste, sa base électorale va le quitter, quoi. Donc il y a intérêt à faire ça.
C'est sûr.
Après, quand vous dites qu'il est responsable, qu'il sait mener sa barque, quand on voit les témoignages de ses proches conseillers, ils disent que c'est un grand enfant qui est très orienté justement par ses conseillers qui sont beaucoup plus
Certains, il mène même
des décisions beaucoup plus intelligibles.
Il mène même son pays à la guerre.
Toujours l'Iran.
Oui, en fait,
c'est
le problème.
Il mène une guerre contre l'Iran quand même.
Le problème, c'est qu'il réagit pas comme un politicien. Il y a même un penseur qui. Ça, c'est. Des paroles que je reporte, qui disait qu'il a les réactions d'un chef politique qui veut mener son pays à la guerre. Il a les réactions de quelqu'un qui à une époque où la guerre est imminente. Il est dans un rapport conflictuel avec les autres pays et sa politique protectionniste ne va pas aider ce qu'on appelle un multilatéralisme. De toute façon, Donald Trump n'est pas pour le multilatéralisme. Et ça va augmenter les relations entre les autres pays et détériorer les relations entre les États-Unis et le reste du monde, je pense.
Ouais, ça, c'est
déjà fait depuis le début de son mandat.
Il n'y a qu'à voir toutes les gaffes qu'il a pu faire. Il faut savoir qu'il a été accusé très récemment de viol. Et que,
non, mais ça fait longtemps qu'il est accusé de viol.
Je sais que quelqu'un a porté plainte il n'y a pas longtemps. D'agression sexuelle, excuse-moi. Et il a quand même sorti « C'est pas mon genre de femme » pour s'excuser. Enfin, là, on a quand même l'image du personnage qui ressort. Moi, j'ai lu ça, ça m'a bien fait rire quand même.
Dit, s'il n'est pas fautif, je vois pas pourquoi il devrait...
Faut regarder les choses
si
en face.
Pas fautif, tu réponds pas.
On va pas partir sur le débat des agressions sexuelles.
Surtout quand t'es président de la République.
Ouais, voilà.
Mais faut regarder les choses en face.
Tu représentes un des pays les plus puissants du monde.
Voilà, et même, si je peux me permettre d'évoquer quelques mots sur ce sujet... Vous pensez sincèrement qu'il y a quelqu'un qui va se dire on va porter plainte contre Trump parce que ça va être sympa si je fais croire aux gens qu'il m'a agressé. Enfin, comment dire, pour moi.
Ça, oui, ça existera, je pense que
je pense que oui, c'est possible. Mais à mes yeux, comment dire.
Ça a été fait, c'était une actrice pornographique qui a porté plainte contre Trump, justement.
Je pense que oui, c'est possible. Après, il
faut
pas se
dire.
C'est
même fait, d'ailleurs.
Non, mais voilà, je te crois, sans problème. Mais pour moi. je pense qu'il y a tellement de choses contre Trump qu'on peut pas dire que tout ça c'est faux, tout ça c'est que du pipeau, ouais. Et que il y a un moment faut, mmh.
Mais après,
faut
le se rendre compte du personnage, quoi. Enfin, toutes les bêtises qu'il fait et tout ce qu'il fait, oui. Et nous on dit c'est n'importe quoi. Il y a plein d'Américains qui adorent ça, quoi. Enfin, c'est
ouais
ça aussi,
mais ils adorent ça parce que ça les fait rire ou enfin
non,
parce que
je
ça leur fait rire,
adorent
ou...
vraiment ce qu'il fait. Je pense qu'ils sont d'accord avec lui. Je pense qu'il y a plein, oui, d'Américains qui pensent que le réchauffement climatique c'est bidon, qui pensent que les femmes elles doivent être à la vaisselle, enfin je pense.
Et là c'est toute une, pardon excuse-moi François, c'est juste toute une un état d'esprit d'un pays ou même du monde qui ressort, et bah ça fait peur, quoi. Enfin, je sais pas vous, mais
carrément.
Mais c'est un très vieux président. Il vient avec son bagage culturel, il vient avec son bagage surtout professionnel. Il vient du milieu de l'immobilier, de la finance. Il écrase les gens, il n'a pas l'habitude de travailler avec. C'est pour ça, faire une guerre, il voit pas ce que ça engendre.
Oui,
il voit simplement que son bénéfice au final.
Bien sûr, parce que lui, il voit le côté où il va diriger la guerre. Il voit pas le côté.
Ouais, puis il voit les Américains gagnent la guerre, les Américains sont surpuissants, les Américains gagnent tout, et puis c'est bien, quoi.
Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens justement qui aiment bien Trump, justement pour son côté conservateur.
Ouais.
Et justement, de par le fait qu'il gère bien l'économie du pays, et c'est grâce à lui justement que tout va bien. Mais il ne se préoccupe pas des préoccupations sociales, mais il y a quand même beaucoup de gens qui soutiennent ce fait que l'Amérique va mieux avec Trump dans le sens économique, en fait.
Oui, bien sûr. Est-ce que ça va durer sur le long terme au final ? Est-ce que ça va payer, en fait, simplement ? On verra bien.
Bah non, puisque... ses actions sont choc, mais ça va pas rester dans la durée, parce que là certes il a des bons résultats puisque le chômage est historiquement bas, mais dans la durée non, puisque du coup par ça, par cette volonté d'être conservateur, il se ferme des relations internationales et puis notamment des échanges commerciaux, et donc à un moment donné ils vont se retrouver isolés. Il y a même un risque d'ailleurs de pénurie de main-d'œuvre, notamment avec la Chine, dans la mesure où les Américains vont vouloir arrêter les relations commerciales avec la Chine, donc ils vont augmenter les taxes de la Chine. Donc les Américains qui voudront acheter des produits chinois vont avoir leur pouvoir d'achat qui va diminuer à cause de l'augmentation justement des prix. Mais le problème, c'est que les Américains vont quand même vouloir avoir accès à des produits à un prix compétitif, sauf que le marché économique de l'Amérique ne va pas le permettre, les prix vont être trop importants en Amérique, et donc c'est ça, c'est la question que j'allais vous poser, est-ce qu'il n'y a pas un risque de retour de flamme, si on peut dire ça comme ça, de vouloir être conservateur, est-ce que ça ne peut pas nuire justement au pouvoir d'achat, tout ça, aux Américains eux-mêmes, au peuple américain ?
C'est possible, bien sûr.
Carrément, s'ils ont moins de pouvoir d'achat, c'est pas bien pour eux, quoi.
Bien sûr, après, comment dire ? En fait, j'ai peur que, comme tu dis, ils sont tellement conservateurs que ils s'isolent, comme tu dis, et que je pense que c'est qu'au fil des années, on s'est quand même rendu compte que s'isoler du monde et dire qu'on est capable de se débrouiller tout seul comme des grands, ça marche pas forcément, et qu'on a quand même besoin.
Ça marche jamais, hein,
parce que les États-Unis sont certes un pays immense avec du coup beaucoup de richesses, parce qu'ils ont des climats différents, ils ont plein de choses qu'ils sont capables de produire, mais ils seront jamais capables d'avoir tout. Enfin, ils peuvent pas tout produire tout seuls, en fait. Rien que ce principe-là. Il y a plein de choses que les Américains ont l'habitude d'utiliser, qu'ils aimeraient continuer à utiliser forcément, et qu'il n'y a que dans d'autres pays qu'on est capable de... Enfin, pas forcément aux États-Unis en tout cas, qu'on est capable du coup de produire et donc d'exporter. Et dans ces cas-là, il faudrait remettre en cause du coup tout le fonctionnement quand même des achats et de la vie des Américains. Et ça, c'est pas rien, quoi. Enfin, on n'est pas encore là, hein, clairement, mais... Ça, si on continue sur ce chemin-là, ça fermerait beaucoup de portes.
Mais de toute façon, aujourd'hui, pas seulement pour les États-Unis, mais pour tous les pays du monde, c'est impossible de vivre seulement avec ce que son pays produit.
En fait, on est tellement rentré dans la mondialisation.
Autres, ouais, voilà.
On a tellement vécu, on vit avec ce que produisent aussi les autres pays.
Ouais, carrément.
Donc revenir en arrière, c'est quand même un sacré défi, quoi.
Ouais, puis je pense que même au niveau social et tout, enfin, ça irait pas du tout, hein, s'ils faisaient ça les États-Unis. Enfin, ils auraient des pénuries. Enfin, ce serait n'importe quoi. Hein. Parce que pour nourrir tout le monde du jour au lendemain avec que ce que les États-Unis produisent, ils n'y arriveront jamais, quoi.
Je fais bien de parler de l'alimentation, notamment de l'agriculture. Le problème de cette confrontation commerciale entre la Chine et les États-Unis, c'est que le président, donc Donald Trump, a dû débloquer des fonds d'urgence pour pouvoir pallier au déficit des agriculteurs, puisqu'ils n'arrivaient plus à exporter leurs marchandises principalement vers la Chine. Voilà. Donc ça pose une problématique aussi au niveau de l'agriculture.
Après le sujet, les États-Unis, mais pas les États-Unis et que la Chine. Il y a aussi énormément de pays qui sont en train d'émerger. Bon, moi je parle pas trop le débat il est sur aujourd'hui, mais je pense qu'on peut aussi réfléchir à demain. Je sais pas, je prends un pays juste en dessous, le Brésil, deuxième producteur de soja derrière les États-Unis, qu'il ne l'était pas du tout il y a 20 ans, et qui en train de, on parle d'agriculture, qui est en train d'émerger sur la scène mondiale. Mais je prends l'exemple du Brésil, donc ça ce sont des chiffres de l'INSEE, une étude de 2014-2015, et je parle du Brésil, mais en fait on peut parler aussi de l'Afrique. Bon, certes je vois un peu plus loin, mais c'est énormément de pays, énormément de terres, qu'on n'a pas encore tout utilisé. Enfin c'est comme le Brésil, ce sont des terres, il n'y a pas assez d'habitants, et les gens ils n'ont pas encore exploité tout le potentiel du pays, du territoire. Et là, il y a un potentiel énorme. Bon, certes, il fait plus chaud, il va falloir s'adapter, mais avec les recherches scientifiques, ce sera possible. Oui. Et avec aussi énormément de main-d'œuvre d'Afrique.
Tu fais bien de parler du Brésil, puisque effectivement, pour solutionner le fait que les États-Unis ne veulent plus travailler avec la main-d'œuvre chinoise, ils se réorientent vers le Brésil, qui a une main-d'œuvre financièrement tout à fait similaire par rapport à la Chine, et il se réoriente vers ces pays.
Après, comme tu disais, on n'a pas encore tout exploité, mais le truc, enfin pour moi je vois un côté un peu autre, c'est que tu dis on va pouvoir, grâce au progrès humain etc, pouvoir s'adapter, mais bientôt il faudra voir le côté écologique où on se dira que le progrès humain il est là, mais le problème c'est que bientôt le progrès il sera bloqué parce que bientôt, là, on ne se rend pas compte, mais l'augmentation des températures, c'est en train de faire fondre une certaine couche de matière dans l'Antarctique, et que bientôt, on va arriver à un niveau où c'est du gaz qui va s'évaporer, et là, ça va être le début de la fin, parce que il va mettre en route quelque chose qui va s'emballer. On ne va plus être capable de contrôler ce que va faire notre planète, et à partir de là, on aura beau parler de progrès, de parler de développement des autres continents, on ne pourra plus faire grand-chose. Donc voilà, moi, je vois ce côté-là. C'est sûr que c'est un autre débat encore, mais il faut aussi se rendre compte que le progrès, pour l'instant, on est obligé de donner des limites au progrès. Parce que, tout simplement, on a une planète, et notre planète a des limites. Et on ne peut pas se dire que le progrès humain, il est limité, parce que on est sur une planète et on n'en a qu'une. Voilà.
Alors, on va marquer un temps de pause. On se retrouve juste après, petite pause musicale. Swimming around, pecking, keep me up, and I can't come down. All of these words, building a house in my head, tearing it down. The wreckage is keeping me up, and I can't come down. The carnage of the cardinals that haunt me. The buzzing of the hummingbirds that knock me. The ravens got a carnival that's rocking me wide awake, like there's nothing at stake. 'Cause I was born as perfect as the skies are, headlatched up into the skylark. But now my brain's a prison for the flight. Oh, get out of my head, get out of my head, get out of my head. All of these birds in my head, swarming around, pecking to keep me up, and I can't come down. All of these words, building a house in my head, tearing it down. The wreckage is keeping me up, and I can't come down. The murmur of the starling song is maddening. The murder of the crowds is coming at me. The ticking of the clock is trying to mock me. I'm wide awake like there's nothing to say. 'Cause I am still the architect of this cage, and I settle the raptors on a rampage, begging for a rapture, for an escape. Get out of my head, get out of my head. My head.
keep me up and I can't come down. All of these words building a house in my head, tearing it down. The wreckage is keeping me up and I can't come.
Alors, on se retrouve pour cette deuxième partie de l'actualité dédiée aux États-Unis. Donc, je crois que Ronan veut nous parler d'immigration avec François.
Oh, pas particulièrement moi. C'était pour dire de commencer à ouvrir le débat sur l'immigration aux États-Unis. Et surtout, on parlait de Trump en parlant des États-Unis. Et je pense que c'est normal d'aborder quand même sa politique par rapport à l'immigration, sa volonté de fermer les frontières. Et de plus construire de murs que de ponts dans son pays. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Justement, pourquoi parler d'immigration pour les États-Unis ? C'est ce que tu me disais. Bah, les États-Unis est fondé sur le principe même de l'immigration. Donc voilà pourquoi c'est un sujet très important qu'il faut aborder lors d'une émission sur les États-Unis. Et donc, avec Ronan, nous nous posions la question. Effectivement, dans la politique de Trump, on bâtit plus de murs que de ponts. Vous en pensez quoi de ce projet de bâtir un mur ? Très concret, pense-t-il ?
C'est n'importe quoi, je trouve. Mais alors moi, je trouve ça totalement débile parce que le principe, c'est quand même que des travailleurs arrivent pour apporter du travail aux États-Unis pour rendre plus riche et tout. Et en fait, là, ils veulent empêcher des gens de venir travailler. Enfin, c'est complètement
débile. Ah, mais faut le dire, il y a déjà un mur. Il y a déjà un mur, c'est juste qu'ils peuvent en faire un vrai, bien dur.
Non, mais il y a des constructeurs privés qui ont déjà construit des parcelles de murs, en fait. Mais le mur, il n'est pas complet.
Non, mais tu le disais que c'est paradoxal. C'est vrai qu'au début, je vois New York, le but, c'était d'attirer les gens, enfin les immigrations irlandaises.
Ouais, que Staten Island.
C'est totalement ça. Et puis là, on voit qu'il veut fermer ses frontières et se fermer au monde, quoi. Donc voilà, je trouve ça un peu.
C'est presque contraire au projet du pays de base, en fait. Pourquoi les gens se sont révoltés pour dire on est indépendant et.
Mais fermer les frontières, il n'y a pas que lui qui l'a fait au XXe siècle,
oui,
ça s'est beaucoup arrivé.
Ouais.
Genre maladie de la betterave en Irlande au XXe siècle. Énormément d'Irlandais et d'Anglais sont partis s'immigrer aux États-Unis.
C'était la pomme de terre, non ?
Pomme de terre ?
Ouais, pomme de terre, je crois.
Oh, pardon, pomme de terre. Ils sont partis. C'est le programme de l'année dernière. Vous êtes plus à même que moi d'en parler.
Si tu le dis.
Et donc, énormément d'immigrés sont allés aux États-Unis. Et si je me souviens bien dans le programme de l'année dernière, je suis avec des pros. Eh ben, les États-Unis ont commencé à augmenter leur contrôle au niveau de.
Oui, totalement.
Voilà.
Ils ont réagi.
Au niveau de leurs frontières.
Ouais, après, entre augmenter le contrôle et dire on veut vraiment des gens qui soient pas malades, qui soient bien portants, et dire on veut plus personne, personne ne vient, je trouve qu'il y a quand même une différence.
C'est assez radical quand même. La notion de mur, elle est quand même vachement, vachement violente.
Je trouve que c'est violent de mettre un mur. Enfin, c'est vraiment.
Le mur de Berlin, vraiment. Quoi. C'est le truc. Enfin, je sais pas vous, ça divise pas non plus une ville. Mais l'image, oui, comme tu dis, elle est forte parce que. Voilà, l'idée, c'est.
C'est vraiment, on est reclus derrière notre mur et plus personne ne vient, on reste ensemble et c'est tout, quoi. Ouais.
Après, c'est un problème d'approche aussi. Les Américains sont. Comment stopper l'immigration ? Donc, ils vont partir sur une solution matérielle. Remarque, ce que je vais dire, c'est matériel aussi, mais à mon sens, ce qui serait plus approprié, c'est de réfléchir comment on peut stopper, mais à la base, cette immigration. Oui. Est-ce qu'on ne devrait pas instaurer un financement, des infrastructures, aider les pays qui ont des populations
plutôt
qui immigrent, justement,
dans les États-Unis. Leur sens.
Mais dans la logique du président des États-Unis, comment aider un pays alors que j'en en gagne aucun bénéfice ?
C'est ça.
Le bénéfice serait justement d'avoir moins d'immigrés. Mais à terme,
le coût que ça a coûté, tout ça.
Il y aurait moins d'immigrés, mais il y aurait moins d'immigrés quand il sera plus en mandat.
Oui.
Genre dans 10 ans.
C'est toujours Trump qui est homme d'affaires, donc qu'est-ce que moi ça va apporter ?
La solution la plus rapide, la plus
radicale. Mais il n'y a pas que Trump, on parle que de Trump. Je me permets de faire un aparté. Nous,
on est assez rationnel aussi.
Mais on a la situation qui fait que entre l'Afrique et la France, il y a une mer.
Oui.
Alors qu'entre le Mexique et les États-Unis, il y a.
Ouais, c'est vrai que notre mer, en fait, c'est le mur des États-Unis. Quoi.
Voilà,
c'est pareil.
Et ça peut être ça.
Et
si...
nous, on ne met pas de bateau, donc du coup, pas de traversée. Donc c'est
non seulement on ne met pas de bateau, mais on les empêche d'avancer. On les bloque dans un port, le port de Marseille, il y avait un bateau qui aidait les migrants. Après, on peut se demander, est-ce qu'au final, ça serait pas le mur de l'Europe, ça serait pas cette mer.
Bien sûr. Ouais. Mais bon, après.
Et en plus, après, faut se dire.
C'est la façon dont on contrôle la mer qui provoque ces problèmes.
Ouais, mais si après, ce que je veux dire, les migrants, ils migrent pas parce qu'ils se disent, oh, c'est cool, on va aller en Europe, on va aller.
Voilà, là, on part sur le débat des migrants. pourquoi les gens immigrent ? Parce qu'il y a la guerre dans leur pays.
Parce
Les migrants mexicains,
c'est
pas pareil.
Il y a la famine, il y a des maladies. Fin.
Et là, on comprendra, je pense, jamais la situation qu'un migrant peut vivre dans son pays d'origine. Ouais. Quelqu'un qui migre, c'est quelqu'un qui ne peut plus vivre, qui n'a pas... qui peut plus être un être humain à part entière dans un pays où la guerre règne. Pour moi, vraiment, je sais pas si j'utilise des termes comme ça.
Je migre ou je meurs, quoi. Enfin,
c'est ça, mais sinon, pourquoi ils iraient traverser la mer?
Et là, on dit oui, ils prennent notre boulot,
les gens, ils réalisent pas que c'est des personnes qui quittent leur foyer.
C'est des humains, en fait.
Leur pays,
derrière les regards,
pour aller se faire cracher dessus par des gens qui n'ont pas connu leur misère. Ces gens sont partis de chez eux. Ils n'avaient pas envie de partir de chez eux. Et le pire. C'est qu'ils partent de chez eux pour aller dans des pays où on les traite comme si c'était eux le
problème.
Notre problème. Ça n'a rien à voir avec eux.
Bien sûr
on a des problèmes et en plus, on doit aider des gens. C'est plutôt ça, le truc. Après, on fait quand même partie des privilégiés de ce monde. On a une responsabilité envers eux.
Ouais, voilà,
on doit quand même faire quelque chose. Et il ne faut pas oublier que les conflits là-bas, on n'y est pas complètement pour rien.
Bien sûr
on y est totalement pour quelque chose.
C'est nous qui l'avons des bons.
Pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, il y en a certains qui disent quand même qu'ils reprochent aux migrants de nous piquer nos emplois, de provoquer des problèmes dans le pays. Il faut savoir que le chômage, dans les pays comme ça où il y a la guerre, ça n'existe pas. Les gens qui viennent en France ne connaissent pas le manque de travail. Ils viennent là, ils découvrent le pays, ils disent « Ok, donc ça marche comme ça, donc là je vais devoir trouver du boulot, parce que si je ne gagne pas d'argent, c'est compliqué. » Et ils se rendent compte qu'on leur reproche des choses qu'ils ne connaissaient même pas avant de venir. Donc il faut, à un moment, ouvrir les yeux et se dire que penser savoir ce que vit un migrant, c'est totalement faux, parce qu'on n'est pas capable de s'imaginer ce qu'ils vivent. Parce que voilà, on est dans un pays quand même relativement stable, en paix et en sécurité, exactement. Et il faut arrêter de penser que, on est riche, on est dans notre pays, donc il faut dégager tout le monde parce que, eux, ils ne sont pas français. Et qui ne méritent pas d'être là, simplement.
C'est ça, et puis la migration, c'est un petit peu un argument pour se faire élire aussi. Comme ça, il y a des gens qui utilisent le fait qu'on a une forte migration pour parler à toute cette population qui se sent en fait attaquée, qui se sent menacée par cette immigration. C'est un peu comme le chômage. Le chômage, ça arrange certaines personnes. Ceux qui veulent libéraliser au maximum et qui disent « Regardez, on va vous donner des emplois, etc. » c'est à peu près le même genre de discours.
C'est clair.
C'est que c'est utilisé comme par certains hommes politiques.
C'est clair. Et après, c'est ça qui pose problème. C'est que du coup, un problème quand même social hyper important, excuse-moi Jeanne de t'avoir coupé, provoque et devient finalement une arme politique et on se sert de ce qu'on provoque, de ce qu'on est quand même un minimum responsable dans les autres pays pour ensuite... les utiliser dans nos politiques, etc.
Après, ce que j'allais dire, c'est que les vagues migratoires, c'est quand même c'est ce qui crée le monde. Enfin, je sais pas, s'il n'y avait pas de migrants européens qui étaient partis aux États-Unis, il n'y aurait pas les États-Unis.
Ça fait partie de notre histoire depuis toujours.
Si, il y aurait une évolution plus lente, mais il y avait déjà des indigènes, tout ça. C'était déjà peuplé.
Mais les États-Unis ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui s'il n'y avait pas de vagues migratoires.
Comme la France, d'ailleurs.
Mais oui, voilà.
Ça aurait été peut-être plus long au niveau de l'évolution. Mais...
On était une population d'origine celtique à la base. Enfin, nous, ça remonte tellement à loin. Après, y a les Romains qui sont arrivés, les invasions barbares, ce qu'on appelait les barbares. Souvent, c'était les Germains. Les Germains, les morts en Espagne, c'était des peuples musulmans. Au final, les migrations, c'est ce qui fait le monde, en fait.
Mais je suis d'accord. Et c'est pour ça que, depuis le temps que l'homme existe, il y a eu tellement de transformations qu'on ne peut pas dire un Français, c'est ça. Un Français, c'est quelqu'un qui habite en France.
Même nous, de base, on est migrants, parce que les premiers hommes, c'est
des
hommes d'Afrique.
On est tous originaires, un peu au-delà d'être Français.
Et je vais faire interagir un peu tout le studio. Qui peut certifier qu'il est Français de France?
Alors moi personnellement, j'ai juste un grand-père flamand. Après, je ne sais pas. Mais bon, on va dire que la Flandre, c'est la Belgique, donc c'est pas français.
Je pense que je suis plutôt française, moi.
Après, quand on remonte un peu...
C'est ça, il y a forcément un moment où on aura un ancêtre qui vient d'Afrique. On peut pas faire autrement.
On existe depuis tellement longtemps, on existe depuis tellement de changements, de modifications, de... Problème,
ça me fait penser, moi j'ai mon grand-père Patrick, donc bonjour Patrick, il est à fond dans les arbres généalogiques et il a réussi à remonter vers 1500 même plus je crois, et il va dans les préfectures, dans les centres historiques.
C'est génial, j'ai aussi un arbre généalogique qui remonte à 1700, c'est impressionnant.
Ouais, 1789
personnes. C'est passionnant, c'est ouf.
C'est ça, c'est avant on n'arrive pas à remonter.
C'est ça, et là tu te rends compte que... Bah que les gens, les prénoms que tu vois écrits sur la feuille, bah c'est des gens qui ont vécu la Révolution française. Et là, tu dis waouh!
Voilà.
C'est bizarre. Ah non, ça fait bizarre, clairement.
Bon, reparlons du sujet des États-Unis.
Effectivement.
Soyons sérieux.
Excusez-nous pour la digression.
Non, mais oui, c'est quand même quelque chose. Non, c'est intéressant quand même.
Qu'est-ce que vous pensez de la politique technologique de la Chine? C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez vu aux dernières actualités, mais il y a des espions, donc c'est des étudiants d'ailleurs, chinois, qui vont en Amérique pour pouvoir bénéficier des universités, mais qui sont recrutés par la Chine en tant qu'espions pour voler les technologies américaines.
Wow.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Je n'étais même pas au courant.
Et par ailleurs, quand les pays américains veulent aller faire fabriquer leurs technologies en Chine, ils sont obligés de faire un transfert de technologie et de savoir-faire à la Chine. Qu'est-ce que vous pensez de ça aussi?
Ça va loin.
Voler les technologies.
Oui.
Ah bah, quelque part, après,
L'Occident a une petite manie de... Comment dire ça? On a tendance à dire que les peuples asiatiques qui ont eu un très 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 grand retard par rapport à nous au niveau technologique à partir du... Allez, on va y aller à la louche, 19e siècle, avaient tendance à copier les technologies.
En plus grand et parfois en mieux d'ailleurs.
C'est ça. C'est, l'Occident est créateur, l'Orient est copieur. C'est souvent l'image qu'on a.
En gros, c'est pas
ça. Moi, je relate des faits.
Oui, des faits.
Des informations.
Les sources.
C'était France 2, il y a eu un reportage.
Oui, exactement.
Le service public.
Le service public français.
Le service public français.
Mais
je pense que c'est.
Non, moi c'était pas par rapport à ça que je disais le service public. Hein, c'est parce que c'est important de les faire travailler ces gens-là.
Bien sûr.
Non,
puis je pense que le service public français c'est pas le même que le service public chinois. Enfin, je pense qu'ils sont quand même assez libres.
On est d'accord. Je pense juste véridique ça l'est. Après, ce qu'ils nous disent tout, on sait pas. C'est tout. Est-ce qu'on est au courant de tout?
Après, avec les mots, on peut tourner les choses de bien des manières. Hein. C'est pas si difficile. On peut dire une chose qui est
vraie
dans les faits, entre guillemets,
mais
vraie.
Mais qui est comprise autrement. Ou
c'est
qui
ça,
est...
c'est ça. Et je c'est vois. Pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça.
C'est un métier, c'est juste.
Il n'y a pas d'exemple qui me viennent à l'esprit ici, mais il suffit de donner un qualificatif qui a une connotation un peu plus négative que ça devrait l'être. Par exemple,
c'est un peu la...
quand vous voyez, par exemple, votre adversaire, parce qu'il faut le dire, chaque nation... et l'adversaire de l'autre, à la fois partenaire,
concurrent
d'affaires, mais aussi adversaire. Quand vous voyez que l'autre est plus avancé que vous, et que vous voyez une technologie, et que vous avez la possibilité de l'avoir, est-ce que... Ça, c'est vraiment... c'est le choix du vocabulaire,
en fait. Si je pose la
question,
c'est que le truc, c'est que... À ma connaissance, il n'y a que la Chine qui a ce fonctionnement de piquer réellement
la technologie. D'aller dans les universités américaines, prendre leur savoir et puis l'employer.
Je pense que c'est que la Chine qui s'est fait prendre.
C'est clair.
Non, mais tout le monde fait ça. Hein.
Oui.
Non, surtout sinon on aurait pu
essayer. Ils ont une politique assumée de dire si vous venez faire fabriquer chez nous, vous nous donnez clairement votre technologie.
C'est normal. Quand t'as quelqu'un qui a une technologie incroyable,
il ne respecte pas les droits d'auteur qui sont.
Et ben tu regardes le petit machin là de votre technologie, tu dis tiens c'est vrai que j'aimerais bien le faire moi aussi.
Mais là il s'agit d'étudiants qui allaient étaient étudiants.
C'est quand même grave.
Oui.
Oui, ben, je
c'est
dis
clair.
Pas le contraire.
Non, mais voilà, mais c'est clair, c'est ce qu'elle confirmait.
Ce sont des étudiants qui étaient en fait étudiants de professeurs et qui, pendant leurs études, ont appris les cours du professeur et ont travaillé sur cette technologie. Et oui, au final, l'ont copié en faisant une start-up en Chine. Donc, copié.
On leur a enseigné.
Quand même, c'est pas...
Et le professeur lui-même a fait venir des collaborateurs de ce jeune étudiant, des collaborateurs chinois qui auraient pris des photos. Bon, bref, bon, après, ça, c'est vraiment ce que la presse dit. Après, moi, je pense que personnellement, si on veut être sûr de cette information là, puisque concernant l'espionnage, tout ça, c'est vrai que c'est très vague, mais par contre, il y a quelque chose sur lequel on peut se baser, ce sont les faits judiciaires, étant donné qu'il y a une enquête. Si jamais il est arrêté pour cela, c'est qu'il y a eu enquête et par les services publics, c'est obligé, mais surtout une enquête officielle.
Ça, je me souviens plus
et
très bien.
Et pour rebondir sur ce que tu disais, moi qui suis allé en Chine, je sais très bien que s'ils veulent former des étudiants pour faire en sorte qu'ils soient capables de copier ainsi, enfin de faire le job, que même s'ils ne se rendent pas forcément compte, que l'État veut que les étudiants soient capables de faire, pour du coup être capables de copier, capables de créer des startups, faire en sorte que les plans technologiques soient utilisés pas comme il faut, enfin comment dire, copiés. La Chine en est largement capable parce que le système éducatif chinois est tel que, concrètement, un étudiant chinois commence ses cours à 7h30, il est fini à 21h. Il bosse jusqu'à 23h, il dort. Il fait ça du lundi au samedi, le dimanche, il dort jusqu'à midi, et après c'est reparti. Il a 40 jours l'été, enfin voilà. Il est tellement dans la... Ils sont formatés, vraiment. Ils sont dans leur truc, et ils savent très bien que c'est le seul chemin possible pour ensuite être capable d'avoir une vie sociale correcte. Et du coup, voilà, ils ne font pas forcément, je pense, à ce que j'ai vu. C'est pas qu'ils font pas attention à ce qu'ils apprennent, mais je pense que... Ils savent que de toute façon, il faut qu'ils suivent les règles, il faut qu'ils suivent ce système éducatif qui est quand même très, très épuisant et strict. Et que du coup, bah, voilà, ils font ce qu'on leur dit. Et derrière, la réflexion, elle n'est pas toujours là, vraiment. Enfin, moi, pour l'avoir vécu des expériences, un Chinois, ça respecte l'État encore beaucoup plus qu'on peut l'imaginer.
Bien, alors on va conclure cette émission. Juste avant de conclure, simplement faire la promotion du nouveau compte Instagram qui vient d'être créé. Donc
non.
Ça s'appelle l'Actualiteam. Vous pouvez aller vous abonner. On s'attachera à poster du contenu, des contenus régulièrement et puis des liens. Enfin voilà.
Sachez en plus qu'il y a la page Facebook.
Oui,
aussi,
bien entendu.
En complément. On a vraiment une
complémentarité.
Voilà, on va avoir un réel visuel avec Instagram et ça nous permettra d'instaurer une relation de proximité avec vous, chers auditeurs. Alors pour ma part et puis pour certains chroniqueurs, c'était la dernière émission. Donc on souhaitait vous remercier et puis vous souhaiter un bel été. Merci de votre fidélité. On vous donne rendez-vous à la rentrée.
Salut.